إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 15 dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on continue qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer au sujet des choses qui font partie des principes dans la salat, que ce soit dans les paroles et les actions, et pour distinguer entre ce qui est un rukn, un pilier, ce qui est wajib, ce qui est obligatoire, et ce qui est sunnah, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas obligatoire dans les choses de la prière, que ce soit parmi les choses des paroles ou des actions. On va juste revenir en arrière pour mentionner les différents piliers qu'on avait mentionnés la semaine passée, parce qu'on avait terminé de les mentionner, mais juste pour faire un rappel, pour se remettre dans le contexte, on va les mentionner rapidement. Le premier pilier c'est Al-Qiyam. En premier on mentionne qu'il y en a 14, le Cheikh en a mentionné 14. Donc le premier c'est Al-Qiyam fi Salat al-Faridah. Donc le premier pilier c'est de se tenir debout dans la prière obligatoire. Le deuxième pilier c'est Takbiratul Ihram, c'est-à-dire le premier takbir. Quand on commence la prière, on dit Allahu Akbar. Le troisième pilier c'est Qira'atul Fatiha, de réciter Suratul Fatiha. 4. Al-Ruku'u fi kulli rak'a, c'est-à-dire de faire le ruku' dans chaque rak'a. Al-Khamis wa Sadis, les piliers 5 et 6. C'est Al-Raf'u min al-Ruku'i wa li'atidal wa qifan kahalihi qablahu, c'est-à-dire de se redresser du ruku' et de se tenir droit. Ok, ça c'est deux parmi les piliers dans la prière. Le pilier numéro 7, As-Sujoud, de faire le sujoud. Le pilier numéro 8, Al-Raf'u min al-Sujoudi wal-Julusi bayn al-Sajdatayn, c'est-à-dire de se relever du sujoud, de la prosternation, et de s'asseoir, rester assis entre les deux prosternations. Al-Ruknu al-Tasi', c'est-à-dire le neuvième, c'est At-Tama'nina fi kulli al-Af'al, c'est-à-dire d'avoir la sérénité et le calme et la paix dans tous les mouvements de la prière. Ne pas se précipiter d'un mouvement à l'autre sans prendre le temps de bien se reposer, disons. Maintenant le dixième et le onzième. Le Cheikh il dit At-tashahud al-akhir wa jalsatuhu, c'est-à-dire donc de le faire le tashahud et de rester assis pendant ce tashahud là, ça fait partie des piliers également de la prière. Donc ça c'est les deux autres piliers. Et après il mentionne le douzième, c'est As-salatu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-tashahud al-akhir, de faire le tashahud, le dernier tashahud, et de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahud, ça c'est le 12e. Le 13e, c'est at-tartibu bayn al-arkan, c'est-à-dire le 13e, c'est-à-dire de faire tous ces gestes-là et ces mouvements dans la prière, de les faire en ordre, de ne pas faire précéder un avant l'autre et de ne pas le faire en désordre. Il faut le faire en ordre. Et le 14e, c'est le dernier, c'est at-taslim, c'est-à-dire de terminer la prière en faisant le taslim, c'est-à-dire de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi. Et puis tu te tournes de l'autre côté, tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais le cheikh, il dit, oui, c'est ça. Donc, de faire le taslim, ça, c'est ce qui termine la prière. Maintenant, on va commencer à expliquer les obligations dans la prière. Le cheikh, il dit, القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية. La deuxième question dans ce chapitre, c'est les obligations de la salat, et elles sont au nombre de 8. وهي ثمانية. OK. الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. Donc le cheikh il dit, premièrement, la première obligation parmi les obligations dans la prière, c'est tous les takbirs qu'on fait dans la prière, c'est-à-dire quand on dit Allahu Akbar, tous ces takbirs là sont obligatoires dans la prière, excepté le premier, takbiratul ihram, celui-là il est un pilier, tandis que les autres takbirs dans la salat sont des obligations, sont parmi les choses qui sont wajibat, mais ils font pas partie des piliers. Al-thani, parmi les obligations, le deuxième point c'est quoi? C'est at-tasmi', ay qawl sami'a Allahu liman hamida, c'est-à-dire de dire sami'a Allahu liman hamida. Ça fait partie des obligations dans la prière. Et ça, c'est quand on se relève du recours. On dit Sami Allahu liman hamida. Et le cheikh, il dit Innama yakun wajiban fi haqq l'imam wal munfarid. Amma al-ma'moum fala yakuluhu. Le cheikh, il dit que ça, c'est uniquement obligatoire pour l'imam ou la personne qui prie seule. Mais pour la personne qui est derrière l'imam et qui prie derrière un imam, eh bien, pour lui, c'est pas obligatoire. Et ça, c'est la position du cheikh à ce sujet-là. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, comme troisième point, الثالث التحميد. التحميد, أي قول ربنا لك الحمد, أو ربنا ولك الحمد. Ça, c'est après avoir dit, سمي الله لمن حمدا, l'imam, il va dire, ربنا ولك الحمد. قول ربنا ولك الحمد. للإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire oh Allah répond à celui qui t'a glorifié, hein? C'est-à-dire Allah entend celui qui l'a glorifié, dans le sens que Allah va lui exaucer sa demande. Et dans le troisième pilier ou le troisième obligation ici, c'est at-tahmid, c'est après avoir dit ça on dit Rabbana ولك الحمد, c'est-à-dire notre Seigneur, et c'est à toi qu'appartient Alhamd, c'est-à-dire la glorification. Et le cheikh dit lil imam wal ma'moum wal munfarid. Ça, c'est obligatoire pour les trois, c'est-à-dire pour l'imam, pour le ma'moum, c'est-à-dire celui qui est derrière l'imam, et celui qui prie seul dans une prière volontaire, ou bien qui prie seul à la maison, par exemple. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. Ça, c'est un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit سمع الله لمن حمدا, alors vous dites ربنا ولك الحمد. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas. D'accord? Donc ça c'est le troisième. Et le quatrième pilier, pardon, je me trompe, C'est pas le pilier, c'est le la quatrième obligation dans la prière. C'est قول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم dans le ركوع. Donc, في الركوع مرة واحدة ويسن الزيادة إلى ثلاث هي ويعني إلى ثلاث هي أدنى الكمال وإلى عشر وهي أعلاه. Donc le cheikh il dit que tu dis Subhana Rabbi al-Azim, ça veut dire gloire à mon Seigneur le très grand. Tu dis ça dans le recours une fois et c'est sunnah de le dire plus. Hein, tu peux dire de 3 jusqu'à 10 fois. Ok. Et ensuite le cheikh il dit que c'est obligatoire de le dire au moins une fois. Ça c'est l'obligation. Si tu le dis plus, jusqu'à 3 ou 10, ça c'est supplémentaire. D'accord? C'est sunnah, c'est pas obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit wal khamis, le cinquième obligation. La cinquième obligation c'est qawluhu subhana rabbi al-a'la. Gloire à mon Seigneur le très haut. Et ça c'est dans le sujoud, tu le dis une fois. Marratan wahida wa tusannu az-ziyada. Il a salat. Donc il dit que c'est sunnah de le dire jusqu'à 3 fois. Donc une fois c'est l'obligation et tu peux rajouter et ça c'est sunnah, c'est pas obligatoire. Ensuite le sixième, as-sadis, qawlu rabbi ighfirli bayna as-sajdatayn marratan wahida wa tusannu az-ziyadatu ila thalath. Il dit de dire rabbi ighfirli entre les deux prosternations. Et de le dire une fois, c'est l'obligation. Toutefois, tu peux le dire jusqu'à 3 fois si tu veux augmenter, mais c'est pas obligatoire. Al-wajib al-sabi', le septième, al-sabi', al-tashahud al-awwal, wa huwa an yaqul al-tahiyyatu lillahi wa salawatuhu tayyibat, assalamu alayka ayyuha al-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو نحو ذلك مما ورد. Donc le cheikh ici il a mentionné que le premier tashahhud c'est une obligation dans la prière. Toutefois il mentionne une version du tashahhud qui dit التحيات لله والصلاوات والطيبات. On a mentionné l'exemple au complet, la chose au complet. Il y a différentes versions du tashahhud qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles sont toutes authentiques. La plupart elles sont authentiques. Et si vous voulez plus de renseignements à ce sujet-là, il y a un livre, vous pouvez retourner au livre du cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, je vous le conseille. Dans ce sujet, parce que il rapporte beaucoup de preuves et de différentes explications à ce sujet-là, qui clarifient beaucoup de points qui sont pas mentionnés dans le livre du cheikh ici, du cheikh Saleh al-Fawzan. Et la version que le cheikh mentionne, il dit que il faut dire assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire que le salut soit sûr. Toi, ô prophète, et la miséricorde d'Allah ainsi que sa bénédiction. Toutefois, il y a une parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit que فلما قبض قلنا السلام على النبي. C'est-à-dire, Abdullah ibn Mas'ud il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il disait assalamu ala nabi, c'est-à-dire il disait pas assalamu alayka ayyuha nabi, c'est-à-dire il disait plus après durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait paix et salut, que le salut soit sur toi ô messager d'Allah, ô prophète, et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Toutefois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait plutôt assalamu ala nabi, que le salut soit sur le prophète. Ok, assalamu alayka ayyuhan nabi, ça c'était durant sa vie. Et quand il, après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il disait assalamu ala nabi. Donc alhamdulillah, Et Aïcha, elle a rapporté la même chose également. Donc, si vous retournez au livre de Cheikh Al-Albani, encore une fois, vous allez trouver cette explication-là. Et c'est très intéressant et très important de comprendre cette, cette petite distinction-là. Yani. Ensuite, le Cheikh, il dit comme... Donc ça, c'est le septième. Et le huitième, la huitième obligation dans la prière... C'est al-julus lit-tashahhud al-awwal, c'est-à-dire de s'asseoir pour le premier tashahhud. Li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam dhalik wa mudawamatihi alayhi ma'a qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Na'am. Donc il dit que parmi les obligations, c'est de s'asseoir pour le premier tashahhud parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il le faisait tout le temps. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier comme on l'a vu prier. Donc, ça fait partie de son exemple et des choses qu'on doit suivre. Donc, le cheikh ensuite il dit وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْقَوْلِيَّ وَالْفِعْلِيَّ الثَّمَانِيَّ مُتَعَمِّدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِيهَا. Donc, le cheikh dit, celui qui abandonne une de ces obligations-là dans les paroles ou dans les actions, parmi les huit qu'on a mentionnées, intentionnellement, alors sa prière est invalable. C'est-à-dire, sa prière n'a pas, est pas acceptée, elle est bâtila. C'est-à-dire, elle est nulle, elle est vaine, elle compte pas. Et pourquoi? Parce que c'est une personne qui joue, yani. Il laisse tomber des obligations de la prière volontairement, par exprès. Donc ça, c'est, pas accepté, yani. Dans ce cas-là, puis sa prière n'a pas de valeur. Elle n'est pas acceptée. Toutefois, le cheikh, il dit, وَمَنْ تَرَكَ سَهْوًا تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا يَحْرُمُ تَرْكُهُ فَيُجْبِرُهُ سُجُودُ السَّهْوِ. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que celui qui a abandonné une obligation dans la prière, mais il l'a abandonné parce que il a été par exemple distrait ou bien parce qu'il s'en est pas rendu compte, hein, de l'avoir abandonné puis qu'il s'est rappelé par la suite, alors il fait ce sujoud sahou, ok, parce qu'il a abandonné quelque chose d'obligatoire et donc dans ce cas là il doit obligatoirement faire ce sujoud sahou, c'est à dire le deux prosternations de négligence pour avoir négligé quelque chose de la prière. Puis dans le cas où c'est une, étant donné que c'est pas un pilier, que c'est seulement une obligation, il n'est pas obligé de refaire une raka'a pour corriger cette erreur, comme c'était le cas pour le rukn. Il doit seulement faire deux sujouds, soit sahou, après avoir terminé la prière. Et comment le faire, le sujoud sahou, et qu'est-ce qui se rapporte aux règles qui ont rapport au sujoud sahou? Ça, on va l'expliquer dans quelques cours, peut-être un cours ou deux, peut-être la semaine prochaine par exemple, parce que c'est un sujet qui va être traité dans quelques chapitres, peut-être dans environ trois chapitres, ouais. Donc il faut juste attendre un petit peu, puis bientôt on va apprendre les détails au sujet de comment faire ce jeu de sahou et dans quelle situation, puis donc c'est quoi les différentes circonstances et les différentes façons, les différents cas, comment on doit le faire, Inch'Allah. Maintenant, on arrive au troisième point, al-qism al-thalith, sunan al-salah, c'est-à-dire les sunan dans la prière. Qu'est-ce qui est pas obligatoire, mais qu'est-ce qui est recommandé? Le cheikh, il dit, al-qism al-thalith, من الأفعال والأقوال من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه. Oui, c'est ça. Donc le cheikh, il dit que maintenant, on va apprendre parmi les paroles et les actions qui sont dans la prière, qui font partie de qu'est-ce qui est sunna. Et que si tu abandonnes quelque chose de ces paroles et de ces actions-là, ta prière ne sera pas annulée ou elle ne sera pas vaine ou bien nulle, elle sera quand même acceptée. Toutefois, elle perd de sa valeur, elle perd de sa récompense et de sa valeur. On va expliquer c'est quoi ces différentes actions là. Le cheikh il dit sunan as-salah naw'an. Les sunnas de la prière sont de deux catégories, c'est-à-dire les sunnas qui sont dans les paroles et les sunnas qui sont dans les actions. Le cheikh il commence par expliquer celles qui sont dans les paroles, puis quand il a terminé, il va expliquer celles dans les actions. Inch'Allah, donc on va commencer à expliquer la première catégorie, c'est les sunan dans les paroles. Le cheikh il dit sunan al-aqwal wa hiya kathira minha al-istiftah. Donc il dit que les sunnas dans les paroles, elles sont très nombreuses. Par exemple, al-istiftah, du'a al-istiftah. Et c'est un du'a qu'on dit avant de lire al-fatiha, quand on commence la prière, après avoir fait takbiratul ihram, il y a un du'a qu'on peut faire, et ça c'est une sunnah, c'est pas obligatoire. On va l'expliquer bientôt après dans la description de la prière. Le deuxième point qu'il a mentionné, c'est at-ta'awudh, c'est-à-dire de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim dans la prière après avoir fait le du'a de l'istiftah, de demander la protection et le refuge en Allah contre le shaitan rajim. Ça c'est une sunnah aussi, c'est pas obligatoire. Ensuite al-basmala, de dire bismillahir rahmanir rahim avant de lire al-fatiha, ça c'est aussi une sunnah. At-ta'mim, c'est-à-dire de dire amin après avoir récité Al-Fatiha, ça aussi c'est une sunnah, c'est pas obligatoire. Ensuite il dit al-qira'atu ba'd al-Fatiha bima tayassara min al-Qur'an fi salat al-fajr wa salat al-jum'ah wal-'id wa salat al-kusuf wa rak'atayn al-awlayayn min al-maghribi wal-'isha' wal-dhuhri wal-'asr. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que de réciter une autre sourate, ou bien de réciter quelques versets de qu'est-ce qu'on connaît du Coran dans la salat, par exemple après avoir lu al-Fatiha, de réciter quelque chose d'autre du Coran, ça il dit que ça c'est sunna également. Par exemple, il mentionne comme exemple la prière de Fajr, quand on récite dans le Fajr, après avoir récité Al-Fatiha, on récite une autre surah, et aussi le Jumu'ah, et le Salat al-Aïd, et le Salat al-Kusuf, et les deux rak'at aussi, les deux premières rak'at de Salat al-Maghrib, et de Salat al-Isha, et de Zohar, et de la prière de Zohar, et de l'Asr, ça c'est sunnah, de réciter quelque chose après Al-Fatiha, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que si quelqu'un récitait uniquement Al-Fatiha puis il faisait le recours par la suite, ce serait accepté, c'est pas quelque chose qui disons annule sa prière. Ensuite le cheikh il dit wa min sunani al-aqwal qawl mil al-ard wa mil as-sama'i wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da qawlihi rabbana wa lakal hamd. C'est-à-dire, parmi les sunan aussi dans les paroles, il y a le fait de dire mil al-sama'i wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Yani après avoir dit rabbana wa lakal hamd, ça c'est disons quelque chose que tu peux rajouter à ton doua après t'être relevé du recours, et c'est pas obligatoire de le rajouter, mais c'est une sunnah. Après le cheikh il dit wa ma zada ala al-marrat al-wahida fi tasbih ar-ruku' wa as-sujud, c'est-à-dire de rajouter par exemple plus qu'une fois, qu'est-ce qu'on dit quand on dit subhana rabbi al-a'la et subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim dans le ruku' et subhana rabbi al-a'la dans le sujud, de dire ça plus qu'une fois, c'est une sunna. Également de dire plus qu'une fois rabbi ighfirli entre les deux sajda, ou bien de rajouter un autre dua après ça, ça aussi c'est sunnah. Et qawluhu allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal, de rajouter ça ما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. Il dit que de rajouter ce doigt-là, « Oh Allah, je cherche refuge en toi contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, la fitna de la vie et de la mort, et également de la fitna du Dajjal. » De rajouter ça dans la prière, dans le doigt à la fin de la prière, et d'autres doigts également après le tashahhud. Il dit que tout ça c'est sunnah, ok, c'est pas obligatoire. Ensuite, maintenant, il explique la deuxième catégorie, an-naw'u thani, sunan al-af'al, c'est-à-dire les sunan qui font partie des actions, les choses qui sont pas obligatoires, mais qui font partie des actions dans la prière, et il dit, karaf al-yadayn, inda takbirat al-ihram, c'est-à-dire, tu lèves tes mains après, lorsque tu fais takbirat al-ihram, lève tes mains, il dit que ça c'est sunnah, c'est pas obligatoire. Et عِنْدَ الْهَوِيِّ إِلَى الرُّكُوعِ, également lorsque tu te relèves pour le recours. وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ, lorsque tu te penches pour le recours et lorsque tu t'en relèves, il dit que c'est sunnah. وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى, de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. وَوَضْعِهِمَا عَلَى الصَّدْرِ, et de les mettre sur la poitrine. Il dit que ça c'est sunnah. Ou تحت السرتي, ou تحت سرته في حال القيام, ou bien sous son nombril lorsqu'il se tient debout. Et ici je mets une petite note en même temps, parce que le cheikh, j'ai remarqué qu'il mentionne à deux reprises la question de placer les mains sur la poitrine dans la prière quand on est debout, et après, et donc il mentionne également de le mettre en dessous du nombril, et ça en fait j'étais un peu surpris de voir que le cheikh mentionne ça, parce que c'est pas mentionné dans aucun hadith authentique de mettre les mains, la main droite sur la main gauche sur la poitrine, sous le nombril. C'est mentionné dans un hadith qui est daif, rapporté selon Ali ibn Abi Talib, et le hadith n'est pas authentique. Et tous les hadiths qui sont authentiques, qui parlent de ça, sont mentionnés avec la mention qu'on doit mettre la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Et même en ce qui concerne ce point-là également, dans le madhhab maliki, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient avec les deux mains sur les deux côtés du corps. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui est rapporté dans la sunna. Il y a aucun hadith qui supporte cette position-là, qui sont authentiques. Et même si quelqu'un retourne à la Muwatta de l'imam Malik, vous allez retrouver que un des chapitres du livre de l'imam Malik lui-même, il mentionne que on doit mettre la main droite sur la main gauche, sur la poitrine durant la prière. Donc, ça prouve que c'est la position de l'imam Malik, et il a mentionné même des preuves pour supporter cette position. Donc ceux qui mettent la main gauche sur la main, les deux mains sur le côté du corps, et qui prétendent être sur le madhhab de l'imam Malik, eh bien en réalité ils ont contredit le madhhab de l'imam Malik. Et même l'imam Malik rahimahullah, il dit il a sahha al hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Donc, il faut se limiter au hadith et laisser tomber la position. Si jamais c'était une position de l'imam, on n'aurait même pas le droit de le suivre si c'est en contradiction avec le hadith. Donc ça, c'est clair. Alhamdulillah. Et en ce qui concerne les mains en dessous du nombril, lorsqu'on est dans la position debout, dans la prière, ça, on voit souvent les gens qui sont sur le madhhab des Ahnaf, c'est-à-dire les gens qui prétendent suivre Abu Hanifa, qui mettent leurs mains en dessous de leur nombril durant la salat. Et on voit ça surtout chez les frères qui sont dans Jama'atul Tablir, et Allah al-Musta'an, yani, parce qu'ils les suivent aveuglément parfois. Et donc, entre eux surtout, parce que c'est très... c'est des gens qui sont très... habitués à juste faire le taqlid, de suivre aveuglément. et de ne pas comprendre, de ne pas chercher la preuve parfois, alors ça fait en sorte qu'ils font juste répéter des choses comme ça sans retourner aux références pour vérifier l'authenticité. Si jamais il y a une preuve qui n'est pas authentique. Et Cheikh Nasiruddin, Mohamed Nasiruddin al-Albani, Rahimahullah, il dit dans son livre Sifatu Salat al-Nabi, il dit Tanbihun wad'uhuma ala sadri huwa alladhi thabata fi sunnah wa khilafuhu imma da'ifun wa awla asla lah. Donc le Cheikh il dit que c'est une note qui dit que de mettre les deux mains sur la poitrine, voilà ce qui est établi par la sunna. Et qu'est-ce qui contredit ça? Et soit faible, soit que c'est faible, ou bien qu'il n'a pas de fondement du tout. Donc, alhamdoulilah, vous pouvez retourner au livre, comme je vous ai mentionné déjà. Et puis, il y a un bon livre également du Cheikh Salim al-Hilali. En fait, c'est pas le livre du Cheikh Salim al-Hilali, mais c'est le livre du Cheikh Mohamed Sultan Al-Makhzoumi, et dans son livre qu'il a écrit, ça c'est un livre qu'il a écrit pour répondre aux musulmans du Japon lorsqu'ils se sont convertis à l'islam. Ils ont demandé est-ce que c'est obligatoire pour un musulman de suivre un des quatre madahib, et le Cheikh Mohamed Sultan il a répondu à cette question et il a montré les preuves. Et dans les notes que Cheikh Salim al-Hilali a mis, parce qu'il a fait le tahqiq de ce livre et le tahrij des hadiths, et bien dans ces notes qu'il a mentionnées, il a mentionné les références à ce sujet-là. Et c'est très intéressant aussi de retourner, si vous voulez, les explications. Naam, donc, comme on disait, de mettre la main droite sur la main gauche dans la position quand on est debout sur la poitrine. Ça c'est sunnah, donc c'est pas une obligation. Mais toutefois, c'est important de faire attention à essayer le plus possible de s'accrocher à la sunnah lorsqu'on fait la salat et de pratiquer tous les aspects et toutes les règles qui se rattachent à la sunnah et de pas contredire la sunnah. Hein? Parce que justement, et même si c'est pas obligatoire et même si ça annule pas notre prière, ça montre qu'on est des personnes qui sont vraiment attachées à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à respecter son commandement lorsqu'il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, c'est-à-dire prier comme vous m'avez vu prier. Et quelqu'un qui abandonne les sunan sans raison, sans excuse, ça montre une personne qui est paresseuse. Et disons une personne qui est pas qui veut pas vraiment faire des efforts pour accéder à plus de miséricorde et plus de bénédiction et à plus de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est triste en même temps. Et les salaf rahimahumullah, ils regardaient la prière d'une personne pour essayer de déterminer est-ce qu'il était sur la sunna ou non. Donc lorsque quelqu'un arrivait de nouveau qu'il ne connaissait pas, il regardait sa prière, il regardait comment la personne prie, et tout de suite il pouvait savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna ou est-ce que c'est quelqu'un qui néglige et qui s'éloigne du manhaj des salaf, etc. Donc ça c'est un bon point aussi pour faire comprendre l'importance de bien prier comme il faut selon la sunna. Et on voit parfois même, et je me souviens de ça également, des gens de bid'a que j'ai mentionné des fois dans certaines occasions, parmi les soufis, ça c'est quand je me suis converti à l'islam au tout début, il y en a qui ont cette habitude là de parler de ce sujet là avec un peu d'émotion et de sentiment pour essayer de d'égarer les gens, et ils leur disent: ah, tu vois certains musulmans, quand ils te voient prier, ils sont après toi et ils te disent: ah, t'as pas mis ton pied comme il faut, t'as pas mis ta main comme il faut. Et là, ils commençaient à dire: l'important c'est le cœur, c'est pas les pieds, comment t'as mis ton pied, comment t'as mis ta main, etc. Hein? Et ça, en réalité, c'est un discours, qui est pas vraiment, qui est pas vraiment justifié, parce que on dirait qu'ils disent ça uniquement pour attirer les gens et pour les affecter leurs sentiments et leurs émotions, et pour les égarer en réalité de la sunna, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à se sentir coupables d'avoir abandonné ou de ne pas avoir respecté les règles de la sunna en ce qui concerne comment prier. Alors qu'en réalité, Ali, c'est vrai que le cœur, c'est très important, al-khushu' et la concentration et d'avoir la présence de cœur dans chaque mouvement. Ça, c'est sûr que c'est important. Mais on ne doit pas utiliser ça comme un prétexte pour dire à quelqu'un, c'est pas grave si tu n'appliques pas la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de le faire. Hein? Donc, il n'y a pas d'extrême à prendre à ce sujet-là. On n'a pas à défendre un extrême ou un autre et à négliger la concentration ou à négliger l'application des règles de la sunna en ce qui concerne la salat. Parce que les deux sont importants. Les deux ont leur importance. D'accord? Donc, on va continuer à mentionner les actions qui sont sunan dans la prière. Le cheikh il dit والنظر إلى موضع سجودي, de regarder à l'endroit où tu te prosternes. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع, et de mettre les deux mains sur les genoux durant le ركوع. ومجافات بطنه عن فخذه وفخذيه عن ساقيه في السجود. C'est-à-dire lorsque tu te prosternes, de ne pas coller tes cuisses à ton ventre, ou bien de coller tes cuisses à tes deux jambes en arrière. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui font ça lorsqu'ils se prosternent, ils se collent les cuisses au ventre et aux jambes, et ils se mettent comme en boule, presque. Et donc, il dit de ne pas faire ça, c'est une sunna. Parce que la sunna, c'est de ne pas faire ça. Donc, il dit de ne pas faire ça, c'est une sunna. Donc il mentionne que si tu le fais pas, si tu évites pas ça, eh ben ça annule pas ta prière. Ensuite il dit wa maddi dhahrihi fi ar-ruku'i mu'tadilan, c'est-à-dire d'étendre ton dos dans le ruku', hein, pour être droit. Ça c'est pas obligatoire. C'est-à-dire il y en a qui se prosternent par exemple le dos un peu arrondi là, hein, au lieu de se prosterner le dos complètement droit. Et le cheikh il dit donc que ça c'est sunna de mettre le dos droit. Wa ja'ali ra'sihi hayalahu, et de mettre sa tête en ligne avec le reste de son dos lorsqu'il est dans le recours. Il dit ça c'est sunna. Il y en a qui penchent leur tête plus par devant, c'est-à-dire par en bas, yani. Et ça c'est contraire à la sunna. Mais si quelqu'un fait ça, bon, sa prière elle va être quand même valable, mais c'est juste que ça diminue de sa récompense dans la prière. Fala yarfidhu wa la yarfa'u, c'est-à-dire il y en a qui la remonte leur tête et il y en a qui la baisse. Et ça c'est contraire à la sunna. Wa tamkinu jabhatahu wa tamkinu jabhatihi wa anfihi wa baqiyat al-a'dha' min mawdi' as-sujud. Il dit de placer bien comme il faut le front et le nez et le reste des membres sur le sol lors de la prosternation. Le cheikh il dit que de bien placer ça, le nez et le front et les autres membres du sujoud, c'est-à-dire les deux mains et les deux genoux et les deux pieds, il dit etc. Et ça c'est quelque chose qui fait partie de la sunna, et donc il a dit qu'il y en a beaucoup d'autres, mais que c'est détaillé vraiment plus en détail dans les livres de fiqh. Donc lui il en a mentionné seulement quelques-uns, hein, Allah. Et donc des fois je mélange entre rahimahullah et hafizahullah, alors qu'en réalité on peut dire tous les deux. On peut dire à quelqu'un qui est vivant rahimahullah, et on peut dire à quelqu'un qui est mort hafizahullah, parce que de toute façon on a tous besoin de la rahma. Et ça, il y a un de nos professeurs qui nous a expliqué ça, quand on était à Al-Madina, il nous disait, on peut dire à quelqu'un qui est vivant, Rahimahullah, parce qu'il a besoin de la miséricorde d'Allah, même s'il est vivant. Et également, yani, Hafizahullah, même s'il est mort, yani, même s'il est mort, Hafizahullah, dans le sens qu'il le préserve au jugement dernier, également, yani, et qu'il le préserve dans sa tombe également d'un châtiment dans l'enfer. Donc, c'est pas une grave erreur, mais c'est juste l'habitude, yani, des fois. C'est pas vraiment une erreur, en fait, comme ça, oui, dans ce sens-là. Après, le cheikh, il dit, وَهَذِهِ السُّنَنِ لَا يَلْزِمُ الْإِتْيَانِ بِهَا فِي الصَّلَةِ بَلْ مَنْ فَعَلَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فَلَهُ زِيَادَةُ أَجْرٍ وَمَنْ تَرَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ شَأْنُ سَائِرِ السُّنَنِ. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit, tous ces sunan, c'est pas obligatoire de les faire dans la salat. Celui qui les fait, ou bien qui en fait une partie, alors il a plus de récompenses. Et celui qui les abandonne, ou qui abandonne certaines d'entre elles, alors il n'y a pas de problème. Et yani, ça c'est la même chose pour toutes les sunan. Et le cheikh il complète en disant, وَمِنْ هُنَا لَنَرَى مُسَوِّغًا لِمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الشَّبَابِ الْيَوْمِ مِنَ التَّشَدُّدِ فِي أَمْرِ السُنَنِ فِي الصَّلَةِ. Le cheikh il dit que à partir de ce point-là, maintenant qu'on a compris que ça c'est des choses qui sont pas obligatoires et donc qui sont des sunan, on voit pas donc que c'est correct pour les jeunes parmi les musulmans aujourd'hui qui exagèrent et qui deviennent trop durs en ce qui concerne la question des sunan. Il y en a qui exagèrent à ce sujet-là, comme le cheikh explique. حتى ربما أدى بهم إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة. Il y en a qui exagèrent au point de vouloir les appliquer d'une manière qui est exagérée et qui ont une apparence même étrange parfois. Comme par exemple, il dit كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع. Il y en a qui penchent leur tête lorsqu'ils sont debout durant la prière, ils penchent leur tête tellement bas, c'est comme si on dirait qu'ils sont presque dans une position d'inclinaison, yani. Hein, presque dans le recours. Ils sont tellement penchés par en avant quand ils se penchent pour la prière, comme quand ils récitent le Coran, ils se courbent la tête là un peu, et on dirait que, yani, ils veulent presque faire le recours, yani. Donc, il dit ça, c'est un petit peu exagéré. Et il dit ويجمع يديه على ثرة نحره بدلا من وضعهما على صدره. Il y en a, subhanallah, il dit, tu les vois, qui placent leurs deux mains, au lieu de les mettre sur la poitrine, ils les placent juste à l'endroit de sa gorge. Hein, il place ses deux mains juste en dessous de sa gorge, là. Hein, ils les mettent un peu trop haut là, et donc au lieu de les mettre sur sa poitrine comme c'est demandé dans la sunna. Ou bien ici encore il mentionne, il dit au tahta surra au tahta surratihi, mais ça comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas authentique de placer en dessous du nombril, parce qu'il dit kama waradat bihi sunna, comme c'est mentionné dans la sunna. Toutefois, comme on a expliqué, en dessous du nombril, c'est pas rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit وَتَشَدُّدُهُمْ فِي شَأْنِ السُّتْرَ. Il dit, il y en a aussi qui exagèrent au sujet de la sutra. حَتَّى بَعْضَهُمْ يَتْرُكَ الْقِيَامَ فِي الصَّفْ لِأَدَاءِ النَّافِلَةِ وَيَذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ آخَرٍ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْ سُتْرَ. Donc, le cheikh, il dit qu'il y en a qui, lorsque c'est le temps de faire la prière, il abandonne sa place dans la rangée, dans le rang, pour aller faire une prière volontaire, et il s'en va ailleurs, dans une autre place, pour trouver une sutra pour faire sa prière volontaire, ou sa prière nafila. Et il dit que ça, c'est pas nécessaire de faire ça. Yann. Tu peux prier là où tu es, même si t'as pas de sutra, il y en a dans la sunna, dans la prière volontaire. Donc, ça c'est la position de certains ulama, parce qu'il y en a qui croient ou il y en a qui défendent la position que la sutra n'est pas obligatoire. Hein, il y en a qui ont la position que la sutra n'est pas obligatoire, que c'est seulement recommandé. Et il y en a d'autres qui défendent que la sutra est obligatoire. Donc c'est une autre différence d'opinion entre les ulama. Ensuite, le shaykh il dit كما وردت به السنة, comme c'est rapporté dans la sunna, وتشددهم في شأن السترة. Ok, ça on a lu. Après il dit ويذهب, ok, وكذا مد أحدهم رأسه إلى الأمام. Il y en a qui avancent leur tête par en avant. ورجليه إلى الخلف في السجود. Il y en a quand ils font le sujoud, ils se prosternent d'une façon un peu étrange là. Le shaykh il dit حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح. Donc il dit qu'il y en a qui se prosternent d'une façon un peu étrange dans la prière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étendent très très loin pour se prosterner. Et le cheikh donc il dit qu'il met sa tête très en avant et ses pieds très en arrière, et c'est comme s'il devient comme un peu arqué là par terre, ou bien presque étendu sur le ventre, à la limite, yani. Donc, c'est comme si, yani, quand tu le regardes, tu vois qu'il est presque couché par terre, hein, dans son sujoud. Et il dit, ça c'est une exagération, yani, ça c'est pas correct. Après, il dit, yani, ça cet exemple-là que le shir donne, c'est l'autre extrême, c'est un extrême par rapport à ceux qui font le contraire, ils se collent les deux cuisses sur le ventre et ils se collent par en arrière, c'est comme s'ils sont presque en boule. Donc il y a ceux qui se mettent en boule et il y a ceux qui se mettent en arc. Les deux, c'est les deux extrêmes, et la position qui est correcte, c'est de le faire entre les deux, hein? Donc de pas exagérer. Et il y en a qui distinguent, font des distinctions entre les femmes et les hommes dans la façon de faire la prosternation. Et ça, c'est mentionné dans certains livres. On voit dans le livre des Ahnaf, des fois, ils montrent la description des prières pour l'homme et pour la femme. Ils font une distinction entre les deux. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de preuve pour distinguer entre la position de l'homme et de la femme dans le sujoud, etc. Ça, c'est pas vraiment mentionné avec des preuves. Donc, c'est juste des choses que les gens ont inventées, yani, parfois, juste pour dire que bon, la femme, il faut qu'elle se colle sur elle-même pour pas qu'on voit son corps, etc. Allahu a'lam, yani. En tout cas, le cheikh il dit wa kadha fahdhu ahadihim rijlayhi fi hal al-qiyam hatta yudayyiq 'ala man bi janibihi. Il y a des gens dans la prière, quand ils sont en rang, ils prient en groupe, ils écartent leurs pieds très très larges. Ils font un grand écart entre leurs pieds. Et ils écrasent les gens qui sont à côté d'eux. Hein? Et ça, ça fait partie des choses étranges, yani, que certaines personnes font dans la prière, qui les amène à tomber dans l'extrémisme. Hadihi sifat ghariba rubbama tuaddi bihim ila al-ghuluwi al-mamqut. C'est-à-dire, ça les amène à l'extrémisme qui est détestable. Nasallallahu lana wa lahum at-tawfiq للحق والعمل به. Donc on demande à Allah pour nous et pour eux le succès dans l'application de ces choses-là. Donc alhamdulillah, on a fini ce chapitre et on va maintenant expliquer la description de la prière que le cheikh a donnée dans ce livre. Encore une fois, on fait ça ici maintenant, on explique cette description-là maintenant. Mais en même temps, je vous réfère encore une fois au livre du Cheikh Nasir, Mohamed Nasiruddin Al-Albani, car dans cette explication, il n'y a pas tous les détails avec toutes les preuves. Toutefois, dans le livre du Cheikh Nasir, il y a la mention des détails avec les preuves, et donc il y a plus de clarification. Mais ça, c'est un résumé, disons. D'accord? Donc, comment on fait la prière? C'est quoi la description de la prière qui contient tous les aspects qu'on a mentionnés, c'est-à-dire les trois catégories des paroles et des actions, qui sont des piliers, les obligations et les sunnah rassemblées et réunies ensemble. Le cheikh il dit babun fi sifati salah, c'est-à-dire un chapitre au sujet de la description de la prière. بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإليك سياق ذلك. Donc le cheikh il dit, après qu'on ait expliqué les piliers de la prière ainsi que ses obligations et ses sunan qui font par, dans les paroles et dans les actions, maintenant on veut vous mentionner la description de la prière qui est complète, qui comprend tous ces aspects là, les piliers, les obligations et les sunan telles qu'elles ont été mentionnées dans les nusus, dans les textes, dans la révélation Coran et dans la sunna. Au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce soit un exemple pour le musulman, et le cheikh il dit également pour appliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit priez comme vous m'avez vu prier, ok, sallu kama ra'aytumuni usalli, et voilà la description qui suit. Le cheikh il dit kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salat istaqbala al-qibla ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال الله أكبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lève pour faire la prière, il se dirige vers la qibla et il relève ses deux mains, hein, à la hauteur, soit ça c'est pas mentionné mais je le rajoute, à la hauteur des épaules ou bien des oreilles, et il place le dedans de ses mains ainsi que ses doigts en direction de la qibla, et il dit Allahu Akbar, ok, et ensuite le cheikh il dit ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره, et ensuite il tient avec sa main droite, il tient sa main gauche et il les place sur sa poitrine, ok, ثم يستفتح ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc ensuite, après avoir mis ses deux mains sur sa poitrine, il dit le dua de l'istiftah, c'est-à-dire il fait un dua de l'ouverture de la prière. Et ce dua, il y en a plusieurs qui ont été mentionnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas seulement un. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il changeait régulièrement de dua à l'istiftah, c'est-à-dire il ne faisait pas toujours le même à chaque fois. Des fois il disait un, des fois il en disait un autre, pas toujours le même. Ensuite le cheikh il dit, parmi les exemples de dua à l'istiftah, il y a celui qui dit « Subhanakallah wa bihamdik, wa tabarak asmuk wa ta'ala jattuk wa la ilaha ghayruk » Donc quelqu'un peut dire ce dua-là. Ensuite, le cheikh dit « Thumma yaqul, a'ouzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim » Ensuite, après avoir dit ce dua-là, là tu peux commencer à dire « A'ouzu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche le refuge en Allah contre le shaytan, hein, ar-rajim, et au nom d'Allah, bismillahir rahmanir rahim. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Le cheikh dit, ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. Ensuite, tu récites الفاتحة. Hein? Et c'est, tu dis, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا ختمها قال آمين. Lorsque tu l'as complété, tu dis Amin. D'accord? Et le cheikh, il le mentionne pas, mais je rajoute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait une pause entre chaque verset. Ça c'est donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il récitait le Coran. Donc ensuite il dit Amin. Et les gens, hein, ça aussi je le rajoute, les gens ils peuvent dire Amin après l'imam. Ils répètent Amin après l'imam. Pas en même temps que l'imam et après l'imam, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens parfois ils le font en même temps alors qu'ils devraient le faire après l'imam. Après le cheikh il dit ثم يقرأ بعد تلك أو بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة. Donc le cheikh il dit que après avoir récité Al-Fatiha, tu récites une autre sourate. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait une prière longue, une sourate qui était longue. Parfois, il en récitait une qui était courte. Et parfois, il en récitait une qui était moyenne, c'est-à-dire pas trop longue, pas trop courte. وَكَانَ يُطِيلُ قِرَاءَةَ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait la lecture de la salat de Fajr plus que toutes les autres prières, c'est-à-dire il la faisait très longue, sa récitation. وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَى وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait à haute voix pour trois prières, la prière de Fajr, les deux premières rak'at de l'Maghrib et les deux premières rak'at de l'Isha, et pour les autres prières, al-Zuhr et al-Asr, il récite à voix basse à l'intérieur, il récite à une voix basse qu'on ne veut pas entendre. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yutilu rak'at al-oula min kulli salatin ala al-thaniya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait toujours la première rak'a par rapport à la deuxième. D'accord? Donc la première rak'a, elle était toujours plus longue que la deuxième. Ensuite, le cheikh dit ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح. ثم, donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève ou il relève ses deux mains encore comme on l'a fait ou comme il le faisait pour al-istiftah, c'est-à-dire quand il a ouvert la prière, quand il a dit Allahu Akbar la première fois. Donc il relève ses deux mains encore une fois, et je rajoute en disant qu'il les met à la hauteur de ses oreilles ou bien de ses épaules, comme c'est mentionné dans la sunna, et il dit Allahu Akbar, ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا, puis il se met en position inclinée, راكعا, hein? Et c'est-à-dire qu'il se penche. ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع مفرجة الأصابع ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ولا يرفعه ولا يخفضه ويقول سبحان ربي العظيم. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en position inclinée ou penchée en mettant ses deux mains sur ses genoux et en écartant ses doigts sur ses genoux, et il les tient comme il faut, et qu'est-ce qu'il fait? Il étend son dos pour qu'il soit complètement droit, et il garde sa tête égale avec son corps, c'est-à-dire égale avec son dos, hein, pour pas que ce soit plus haut que son corps, son dos, ou plus bas que son dos. Il essaie de garder sa tête droite. ويقول سبحان ربي العظيم, et il dit louange à Allah ou gloire à Allah, le Seigneur le très grand. Ok, et comme on a dit tout à l'heure, il a dit jusqu'à 3 fois ou même jusqu'à 10 fois si il veut, hein, et il peut prolonger son recours. Et vous voyez dans le livre de Cheikh Nasir rahimahullah, vous allez voir que yani, il y a des descriptions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait parfois très longtemps dans le recours, hein. Et yani, donc bien entendu, il faut voir la situation, si quelqu'un est imam ou si quelqu'un est il dirige les gens dans la prière, de pas faire la prière trop longue pour que ce soit trop dur pour les gens qui sont derrière lui, et de pas faire non plus trop courte aussi, donc être entre les deux, et de juger par rapport à la situation des gens qui sont derrière lui, hein. Ensuite, le Cheikh il dit, ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع. Ensuite, le Cheikh il dit qu'il relève sa tête, il relève après avoir fait le ركوع, il se relève et il dit سمع الله لمن حمده en se relevant, et il relève encore une fois ses deux mains, hein,
Et il dit, en disant ça, il se relève et il relève ses deux mains, comme il l'a fait avant le recours et au takbir de l'ihram, au premier takbir. Donc il refait encore le mouvement de lever ses mains. En même temps qu'il se relève, une fois arrivé debout, il lève ses mains et puis, là, bon, bien entendu, il y a ceux qui disent, tu mets tes deux mains sur ta poitrine comme tu le faisais quand tu étais debout. Tu mets ta main droite sur la main gauche, sur ta poitrine, et ça c'est la position du Cheikh Nasir. Tandis que, ça c'est la position du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait que quand tu te relèves du recours, tu places ta main droite sur ta main gauche, sur ta poitrine, et Cheikh Nasir, lui il disait que lorsque tu te relèves, tu gardes tes deux mains sur tes deux côtés de ton corps, et tu ne les places pas sur ta poitrine. Donc c'est une différence d'opinion à ce sujet-là. Le cheikh il dit, et comme on a mentionné tout à l'heure, c'est une sunna, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ensuite le cheikh il dit, فَإِذَا اَعْتَدَلَ قَائِمًا, lorsqu'il est revenu debout complètement, قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, il dit رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ quand il est debout. وكان يطيل في هذا الاعتدال. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il se relevait du recours, il restait longtemps. Il se postionnait pas tout de suite comme les gens font aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens maintenant aujourd'hui, Allah musta'an, ils prient comme s'ils font la course. Ils se prosternent, ils font chaque geste, yani comme des robots, yani ils vont très rapidement. Ils prennent pas le temps de se reposer en chaque mouvement. Ça c'est contraire à la sunna, et même que ça peut même être contraire à un des piliers de la prière qui est at-tama'nina, c'est-à-dire d'avoir at-tama'nina, la sérénité durant notre prière, d'accord. Donc yani, donc quand tu t'es relevé, tu dis Rabbana wa lakal hamd, et il y a d'autres dua que tu peux rajouter comme on avait dit tout à l'heure, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, etc. Et beaucoup d'autres dua encore. Si vous retournez au livre du Cheikh Nasir, Sifat Salat al-Nabi, il a mentionné beaucoup de dua qu'on peut dire à ce moment-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait longtemps le fait de rester debout là, après le recours, parce qu'il récitait des dua. Il ne restait pas debout comme ça sans rien dire. Ensuite, le Cheikh dit, ثم يكبر ويقر ساجدا. Ensuite, il fait le takbir. Et il se prosterne. Et il dit le cheikh, wala yarfa'u yadayhi. Et il ne relève pas ses mains comme il l'a fait précédemment pour les autres mouvements. Donc il dit que quand tu te prosternes, tu dis juste Allahu Akbar et tu te prosternes sans lever tes mains. Fayasjudu ala jabhatihi. Et pour la question des takbir, regardez également dans le livre du cheikh Nasir, il a bien expliqué ce sujet-là. فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. C'est-à-dire, il se prosterne en plaçant son front et son nez, ses deux mains, ses deux genoux et ses deux pieds, les bouts de ses deux pieds, par terre sur le sol. يستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة. Il place ses doigts ainsi que ses orteils tourné vers la Qibla durant la prosternation. Et il se met droit, c'est-à-dire il se place comme il faut dans sa prosternation. Il met son nez et son front sur le sol. Et il se tient sur ses deux mains. Ses deux bras, ses avant-bras, il ne doit pas les allonger sur le sol. Il doit les soulever pour pas qu'ils touchent au sol. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous prosternez pas comme les chiens se prosternent, c'est-à-dire en laissant leurs avant-bras allongés sur le sol. Ça, c'est contraire à la sunna. Il faut soulever nos deux bras. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam également? Il dit, yujafi adudayhi an jambayhi. Il écartait ses deux bras. Ses deux coudes, disons, ses deux bras, il les écartait de son corps, pas, il les laissait pas au long de son corps, il les écartait au point où on pouvait voir même le blanc, la blancheur de ses aisselles en dessous de ses bras. Donc ça veut dire qu'il écartait ses deux bras, il ne laissait pas le long de son corps. Et ça, en passant, c'est seulement lorsqu'on est seul et non pas lorsqu'on est dans le rang, dans la prière. Parce que si quelqu'un essaie de faire ça durant la prière, alors qu'il y a quelqu'un à côté de lui, eh bien entendu, il va l'écraser ou bien il va lui enlever de l'espace. Et ça, c'est pas correct. Donc, il faut voir aussi la capacité de le faire. Lorsqu'on est en jama'a, on le fait pas. On ne les place pas de cette façon-là. Ensuite, le cheikh, il dit quoi? Il dit, وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ. Et il décolle son ventre de ses cuisses. وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ. Et également, il décolle ses cuisses de ses jambes. Donc, ça veut dire que ses cuisses doivent être perpendiculaires avec le sol. Et non pas, il ne doit pas être coller les cuisses sur le ventre, ni sur les jambes également. D'accord? Et il disait dans son sujoud, Subhana Rabbi al-A'la. Et bien entendu, il en profitait pour faire des du'as également. Hein? Et Subhana Rabbi al-A'la, on peut dire ça jusqu'à trois fois, comme on a dit tout à l'heure. On peut augmenter aussi. Mais c'est pour dire que on peut prendre notre temps et bien profiter du sujoud pour faire des du'as, etc. Parce que c'est le moment où on est le plus près de Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté dans un hadith à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit que ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. Donc le cheikh dit que par la suite il relève sa prière il relève sa tête en disant Allahu Akbar et il place sa jambe gauche, il s'assoit dessus et il place sa jambe droite, le pied tourné. Il s'assoit sur son pied gauche et sur sa jambe gauche, et sa jambe droite il la soulève un petit peu et il tourne ses orteils vers la Kaaba, disons. Il laisse son pied en arrière soulevé. Ça, c'est dur à décrire avec des mots, mais en tout cas, Allahu a'lam. Je ne sais pas comment vous décrire la position. C'est que son pied droit, il doit être tes orteils doivent être tournés par le devant, et puis il doit être arqué. Ta jambe doit être arquée un peu. Bon, probablement que vous allez être capable de trouver des petits livres avec des exemples, des fois il y a des images qui montrent comment placer le pied, etc. Et vous allez être capable de voir de ces petits livres-là. Des fois c'est plus facile que avec des mots. D'accord? Et le doua que tu dis lorsque tu te relèves du premier sujoud, c'est Allahumma, oh Allah, Allahumma ghfirli, oh Allah pardonne-moi, warhamni, وَجْبُرْنِي وَهْدِينِي, guide-moi et donne-moi le risque et donne-moi la miséricorde, etc. Donc tu dis ça entre les deux, d'accord? Et ensuite tu fais encore Allahu Akbar et tu fais une deuxième prosternation comme tu as fait pour la première. ثُمَّ يُكَبِّرْ وَيَسْجُدْ وَيَسْنَعُ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. Donc il dit que tu dis Allahu Akbar, puis tu te relèves, tu relèves ta tête en disant Allahu Akbar, puis qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit que tu te relèves sur tes deux pieds et tu te tiens sur tes genoux et sur tes cuisses et tu te remets debout. Donc et après le cheikh dit فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ وَيُصَلِّ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. Donc une fois que tu es debout, tu commences à réciter encore une fois comme tu as fait pour la première rak'a. Et le cheikh il dit ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ مُتَفَرِّشًا كَمَا يَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. Puis le cheikh il dit que tu t'assois pour le premier tashahhud par la suite lorsque tu as fini la raka, après ta deuxième prosternation, alors tu t'assois et tu fais ton tashahhud, le premier tashahhud, en t'assoyant sur ta jambe gauche et en arquant ta jambe droite et en soulevant ton pied droit comme on a dit tout à l'heure entre les deux prosternations. Tu t'assois pour le premier tashahhud comme tu t'assois pour lorsque tu fais entre les deux prosternations, tu t'assois pour le premier tashahhud de la même façon. Et il dit wa yada'u yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa yada'u al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra wa yada'u ibhamahu إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة. Donc il dit que tu places ton bras droit ton bras droit sur ta cuisse droite et ton bras gauche sur ta cuisse gauche et tu formes un cercle avec ton doigt, ton pouce et ton majeur et tu fais comme un cercle avec, tu le places sur ton genou et tu fais un cercle avec ton doigt et ton majeur et le cheikh il dit na'am kahay'atil halaqa wa yushiru bi asbu'ihi as-sababa et il indique avec son doigt son index il fait une indication comme il pointe avec son doigt son index et il y a l'athar qui est mentionné, le hadith qui est mentionné à ce sujet là dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'agitation du doigt, l'agitation de l'index dans la salat. Ça c'est mentionné, vous pouvez retourner à ce livre là et le cheikh il dit wa yanzur ilayh et vous le regardez, vous le fixez. Yaqulu wa yaqulu at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa at-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله وكان يخفف في هذه الجلسه donc le cheikh il dit que tu mentionnes ce dua ce qui est le dua de yani at-tashahhud et comme j'ai dit tout à l'heure à propos de la partie où on dit assalamu alayka ayyuha an-nabi Abdullah ibn Mas'ud et Aisha radhiyallahu anhuma tous les deux ont mentionné que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait plus assalamu alayka mais il disait plutôt assalamu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qui est rapporté à ce sujet-là. Donc on doit dire assalamu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et non pas assalamu alayka ayyuha nabi. Donc le cheikh il dit ça puis après il dit que cette position-là lorsqu'on est en train de faire le tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne le faisait pas longtemps, il restait légèrement puis après il se relevait. ثم ينهض مكبرا donc il se relève en faisant le takbir en disant Allahu Akbar فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما على الأولين على الأولين ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب donc qu'est-ce qu'il fait par la suite après avoir fait son tashahhud il se lève il dit Allahu Akbar et il fait la troisième et la quatrième raka'a si c'est une prière qui en a trois ou quatre et il les fait plus légères que les deux premières c'est-à-dire moins longues que les deux premières et il récite dedans al-fatiha il récite encore al-fatiha dans ces deux prières-là quand il est debout thumma yajlisu fi tashahhudihi al-akhir donc lorsqu'il a terminé de les faire ces deux dernières raka'at ou la troisième ou la quatrième, eh bien, il s'assoit pour le tashahhud, le dernier tashahhud, mutawarrikan. Mutawarrikan, c'est quoi mutawarrikan? Ça veut dire, comme le cheikh dit, yafrishu rijlahu al-yusra bi an yaj'ala zahiraha ala al-ard wa yansib rijlahu al-yumna aw yukhrij rijlahu al-yusra an yaminihi wa yaj'al al-yatayhi على الأرض Bon, la description de cette façon de s'asseoir, ça c'est lorsqu'on termine la prière à la fin et qu'on va faire le dernier tashahhud. On s'assoit, comme le cheikh il dit, mutawarrikan, c'est-à-dire que on s'assoit sur la fesse gauche si on veut, hein, et non pas sur la jambe gauche, sur la fesse gauche, et le pied gauche, on place le dessus du pied sur le sol, le dessus du pied gauche sur le sol, donc on s'assoit sur le pied, hein, sur le pied gauche, en plaçant, comme j'ai dit, la fesse gauche sur le sol, et le pied droit va être, et la jambe droite va être comme elle est d'habitude, surlevée par la droite, du côté droit de la jambe. Et yani, là, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, le cheikh dit thumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir, et ensuite il fait le dernier tashahhud, wa huwa kat-tashahhud al-awwal wa yazidu alayhi. Donc tu fais ton dernier tashahhud, sauf que tu rajoutes la dernière partie qui est la salat al-ibrahimiyya, c'est-à-dire le doua que tu fais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim. Tu dis اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc ouais, moi j'ai rajouté un peu là, lui le cheikh il a mis la version plus courte. En tout cas, c'est, les deux sont valables, et dans le livre du Cheikh Nasser, vous allez voir différentes versions, d'accord? Et le Cheikh, il dit donc que le tashahhud awwal, on le fait, le premier, puis on rajoute cette formule, c'est-à-dire, oh Allah, envoie ta bénédiction et ton salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les gens qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as envoyé à Ibrahim, et à ceux qui ont suivi Ibrahim, et tu es certes digne de louange et le majestueux, et également envoie ta bénédiction sur Muhammad et sur ceux qui ont suivi Muhammad, comme tu as béni ceux qui ont suivi Ibrahim et ceux qui ont suivi Ibrahim, et tu es certes digne de louange et majestueux. Donc ensuite le Cheikh dit wa yasta'izu billah min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal wa yad'u bima warada min al-ad'iyati fi al-kitab wa as-sunnah. Ensuite il cherche le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe et les épreuves de la vie et de la mort, et également contre l'épreuve du Dajjal. Et il demande également, en faisant toutes sortes de doigts qui sont mentionnés dans le livre et dans le Coran et dans la Sunna. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui fait un doigt à ce moment-là, il est exaucé, inshallah. Donc c'est un des moments de la prière où il est recommandé de faire des invocations avant de faire le salam. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit ثم يسلم على عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ويبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. D'accord. Le cheikh il dit, puis par la suite qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers la droite et il dit السلام عليكم ورحمة الله. Et il se tourne ensuite vers la gauche et il le fait encore en disant assalamu alaikum wa rahmatullah. Et d'accord, Cheikh lui ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il commence à faire son salam quand il est en direction de la qibla, puis il se tourne vers la droite. Wa yunhihi ma'a tamam al-iltifat. Il dit que tu le termines en te tournant complètement. Donc ça veut dire que pour le Cheikh, comment il explique ici, c'est que pour lui, tu dis le taslim en commençant quand ta tête est en face de la qibla, puis tu le dis pendant le temps que tu tournes ta tête vers la droite, tu continues à le dire. D'accord? C'est comme si tu te tournes en disant assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord? Mais ça, c'est un détail que le cheikh explique. Je ne sais pas vraiment si c'est prouvé par la sunna, mais Allahu a'lam, il n'a pas mentionné de dalil. Au sujet du fait de commencer le taslim lorsqu'on est en face de la qibla. Mais comme je disais tout à l'heure, retournez au livre du Cheikh Nasser, il y a des détails là-dessus.
Inch'Allah.
Ensuite, le Cheikh il dit, فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ثَلَاثًا اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ثُمَّ يَذْكُرُ بِمَا وَرَدَ. Donc, le Cheikh il dit, lorsque tu as terminé, tu as fait le taslim, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je demande à Allah pardon, astaghfirullah, trois fois. Tu fais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ensuite, tu dis, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Donc, tu dis ça, et ensuite, tu fais les autres du'as qui sont mentionnés dans la sunna, et les autres afkar. Ensuite, le Cheikh il dit, ayyuha al-muslim, هذه جملة مختصرة في صلاة في صفة الصلاة حسب ما ورد في النصوص فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. Le Cheikh il dit, oh toi le musulman, voici une explication, un résumé de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans les textes. Et donc le Cheikh il dit, donc prends une grande importance à ta prière, donne une grande importance à ta prière, de la plus grande importance possible, et il faut que ta prière soit en accord le plus possible avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, il y a certes pour vous en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la personne du messager d'Allah, un bon exemple pour celui qui espère en la rencontre d'Allah, hein, qui espère en Allah et au jour dernier, et qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Donc ça vient terminer la description que le Cheikh a donnée ici au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera inshallah demain avec les exemples de qu'est-ce qui est détestable dans la prière, et également avec l'explication de qu'est-ce qui est recommandé ou permis de faire durant la prière. Et on n'aura pas le temps de faire plus que ça dans ce mois, mais on sait jamais, si on a le temps, on fera également les règles du sujoud sahou, c'est-à-dire les règles des choses lorsqu'on a oublié quelque chose dans la prière, comment faire pour corriger ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et à demain à 9h ici à Montréal et 15h pour vous inshallah en France si vous êtes de la France.